Je crois que une partie du message que je dois donner ce matin a été déjà donnée à travers tout ce qui a été dit, à travers ce qu'a dit Marc, à travers ce qu'a dit
Christian,
voilà. Oui. Parce que il y a quelques années de ça, j'avais prêché ici sur la seconde venue de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ et les temps de la fin. Vraiment, j'ai eu à cœur de reprendre ce sujet, et étant donné tout ce qui se passe, le Seigneur m'a donné l'occasion de beaucoup mûrir ce sujet, de prier, de voir exactement, de voir des choses nouvelles. Donc, ce que vous allez entendre ce matin, pendant que la sœur est debout là, la sœur Nutan, est-ce que tu peux me porter un verre d'eau, s'il te plaît? J'en profite puisqu'elle est debout. Oui. Donc, la seconde venue de Jésus-Christ. Nous sommes dans des temps difficiles. Et alors, je vais juste prier avant parce que c'est un sujet difficile. Il faut que le Seigneur me donne. Seigneur, merci pour ce sujet. Merci de me donner les mots et que je dise que des choses justes. Que ce soit toi qui dirige toutes choses, Seigneur. Je ne veux pas dire autre chose que ce que ta parole dit, Seigneur. Vraiment, merci de conduire toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Après la résurrection de Jésus, donc Jésus avait réuni ses apôtres. Après la résurrection de Jésus, vous savez que Jésus est resté 40 jours avec ses apôtres, et à l'issue de ces 40 jours, il y a eu l'ascension. Mais au moment de l'ascension, nous voyons Jésus qui quitte ses apôtres et il remonte au ciel. Et alors ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, à voir Jésus qui remonte. Et à un moment donné, il disparaît derrière les nuées, et il y a deux anges qui s'adressent aux apôtres qui sont pendant qu'ils ont le nez en l'air en train de voir Jésus monter, et ils leur disent: vous Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous? Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Donc c'est déjà une consolation pour les apôtres de savoir que ce Jésus qu'ils voient monter va redescendre, il va revenir. Et avant sa mort, Jésus aura à plusieurs reprises l'occasion de parler de son retour. Et notamment quand il va revenu pour la dernière fois à Jérusalem, ses apôtres vont lui poser une question qui est très très importante, et une question aussi que nous posons nous-mêmes. Ils vont demander à Jésus: dis-nous quand cela arrivera. Ça se trouve dans Matthieu 24, qui est le chapitre central de la prophétie sur le retour de Jésus-Christ et les temps de la fin. Ce n'est pas le seul chapitre, il y a énormément de chapitres, mais c'est un chapitre assez capital. Donc Jésus, les apôtres disent à Jésus: dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement, c'est-à-dire le signe de ton retour et de la fin des temps. Parce que comme Jésus en avait parlé à de nombreuses reprises, donc les apôtres se demandaient: mais de quelle façon saurons-nous avec certitude que tu es en train de venir, de revenir, et donne-nous des signes, donne-nous des signes. Et alors dans Matthieu 24, principalement, nous allons voir aussi dans d'autres passages de la parole de Dieu, Jésus va donner des indices, des signes pour sa venue. D'abord, nous restons donc toujours dans le chapitre 24 de Matthieu, au verset 4, Jésus va d'abord donner cet avertissement. Il va dire: prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom et ils séduiront beaucoup de gens. Malheureusement, ça se passe déjà actuellement. Il y a beaucoup de séducteurs déjà dans le monde. Il y a des gens, il y a même des gens qui se prétendent être Jésus. Dans mon enfance, j'entendais souvent parler du Christ de Montfavet. C'est une petite ville du sud de la France. Un homme qui avait des disciples, un certain nombre de gens, et qui se disait être Jésus. Bon, il est mort, on en a plus entendu parler, mais il y a eu d'autres, et actuellement, il y a encore d'autres personnages de ce genre qui se le disent. Un autre signe majeur et important que Jésus nous donne, au verset 6, c'est la guerre. Vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Actuellement, nous voyons qu'il y a de nombreuses guerres, principalement dans le Moyen-Orient. L'Irak, ça fait déjà une ou deux décennies qu'il y a la guerre là-bas. Actuellement, c'est la Syrie, il y a eu aussi l'Afghanistan. Enfin, tout le Moyen-Orient est plus ou moins en feu. Et ça fait déjà quand même un bon moment que ça existe, sans compter Israël. Mais le Seigneur nous dit, ce ne sera pas encore la fin. C'est le début des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que tous ces signes, toutes ces guerres qui se profilent un peu partout à l'horizon, ce sont des signes annonciateurs de la fin du temps. Et c'est vrai que depuis la dernière guerre mondiale, il y a eu de nombreuses guerres. Il y a eu la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam, qui a suivi la guerre de Corée, pour citer les guerres les plus importantes. Il y a eu toutes les guerres, la guerre de Chine, quand le communisme a pris le pouvoir en Chine. Il y a eu aussi un peu partout des guerres de décolonisation, un peu partout dans de nombreux pays. Mais tout ça, c'était, aux yeux de Jésus, des signes annonciateurs, mais pas encore vraiment la fin des temps. La Bible nous dit que complètement à la fin, juste au moment de son retour, il y aura une très très grande guerre à laquelle va participer quasiment toute la planète. Et dans cette guerre, un tiers de la race humaine va disparaître. Il va y avoir un tiers de la race humaine. Bon, alors si vous faites un calcul, on est à peu près 7 milliards, et un peu plus de 7 milliards sur la Terre. Bon, il y aura à peu près, dans cette dernière guerre, il y aura à peu près 2 milliards et demi de morts. Mais bon, on n'y est pas encore. Mais il y a d'autres signes dont nous parle Jésus. Il parle de tremblements de terre et de famine, au verset 7. Alors, à propos des tremblements de terre, ceux qui surveillent les courses terrestres avec les sismographes, les savants qui surveillent les tremblements de terre, se sont aperçus que depuis quelques années, la terre n'a jamais autant tremblé que maintenant. Ça n'a jamais autant tremblé. Et ça va de pire en pire. Et ce ne sont pas forcément des tremblements de terre spectaculaires comme au Pérou, comme au Japon, avec des morts, des destructions massives, etc. Ou comme le Népal a connu il y a 2 ou 3 ans et d'autres régions du monde. Mais la terre tremble, il tremble, il tremble. Et même en France, il y a eu des tremblements de terre. On le sait parfois dans un flash de France Info. Mais il n'insiste pas pour ne pas paniquer les gens. Dans le Midi, il y a eu des tremblements de terre du côté de Pau, dans le sud de la France, il y a eu des tremblements de terre. Mais vous voyez que personne n'est épargné. Mais tout ça, ça fait partie des signes de la fin. La Bible nous dit que dans les temps de la fin, il va y avoir un homme puissant qui va prendre le pouvoir et qui va diriger la terre entière. Et cet homme, sera une divinité. Cet homme sera quelqu'un qui tiendra cette puissance de Satan lui-même. Alors, cet homme aura un adjoint qui sera aussi un dirigeant spirituel. Alors, on va essayer de voir cela un peu dans les détails. Nous revenons à Matthieu 24, au verset 11. Jésus déjà nous met en garde en nous disant qu'il y aura des faux prophètes qui s'élèveront et qui séduiront beaucoup de gens. Des faux prophètes. Donc, ce dirigeant mondial qui va venir sera, lui, si je me permets d'utiliser ce terme, un super faux prophète. Alors, au verset 24, Jésus nous dit à ses apôtres qu'il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus de Dieu. J'aime bien ce mot « si possible ». Ça veut dire que ce dirigeant qui va faire des prodiges, qui va absolument fasciner la terre, il va avoir un charisme tellement puissant qu'il va ensorceler pratiquement les gens. Eh bien, on en a eu un exemple pendant la dernière guerre mondiale, avec Hitler. Hitler est un homme qui a réussi à galvaniser l'Allemagne, l'Autriche et un certain nombre de nations. Et quand il faisait ses discours du temps du Troisième Reich, quand il faisait ses discours sur la place principale de Berlin, il avait parfois 1 ou 2 millions de soldats qui étaient massés devant lui, au garde-à-vous, pendant des heures. Et ces soldats avaient le bras levé et criaient « Heil Hitler !» Non, c'était le bras droit. « Heil Hitler, salut Hitler, nous te vénérons, tu es notre Dieu, tu es notre roi. » Et pendant des heures, et ces hommes étaient complètement fanatisés, et après ils pouvaient partir et faire la guerre, et tuer des gens, et faire n'importe quoi. En fait, ils étaient complètement sous un esprit démoniaque. Ce que beaucoup de gens ne savent pas aussi, c'est que Hitler faisait partie d'une secte et il adorait le dieu Wotan. Le dieu Wotan, c'est le dieu de l'Allemagne germanique d'avant la chrétienté. Et Hitler était quelqu'un qui faisait pas seulement Hitler, mais tous ses généraux étaient des gens qui faisaient de la sorcellerie et qui étaient très très versés dans ces choses. Bon, alors, cet homme, ce dirigeant qui va venir, sera lui aussi tout à fait versé dans ces choses. Quand nous prenons le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, le chapitre 13 de l'Apocalypse est un livre aussi très important pour nous décrire comment va opérer ce dirigeant mondial qui va diriger la Terre pendant une période de 3 ans et demi. C'est à peu près les calculs que les théologiens ou que les responsables qui étudient la parole de Dieu disent. Pendant une période à peu près de 3 ans et demi, donc l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse nous dit au verset 1 du chapitre 13 « Puis « je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Donc l'apôtre Jean voit ce monstre, cet énorme monstre qui sort de la terre de la mer avec 10 cornes, et il comprend par la suite que, en fait, les 10 cornes de cette bête sont 10 royaumes et en fait 10 dirigeants qui vont diriger la terre avec cet antichrist, avec cet homme. Et Apocalypse 13 n'est pas le seul chapitre, n'est pas le seul passage de la parole de Dieu à nous parler de ce dragon, de cette bête à 10 cornes. Au verset 2 de Apocalypse 13, il nous est dit que le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. le dragon. C'est quoi le dragon ? Eh bien, le dragon, c'est Satan, tout simplement. Il y a un pays de la terre qui a comme un emblème le dragon. Et c'est aussi le pays où il y a le plus de chrétiens. Je parle de la Chine. La Chine a 1,3 milliard d'habitants. Mais d'après les statistiques, il y a près de 100 à 200 millions de chrétiens en Chine. C'est pas quelque chose que le gouvernement chinois va proclamer. Parce que ce sont des églises souvent souterraines, cachées. Mais bon, il y a quand même... mais c'est le dragon. Alors le dragon, c'est Satan. Et au verset 3, il nous est dit que la terre entière suivit la bête. La terre entière va suivre ce dirigeant qui va diriger d'une poigne de fer. Et à côté de lui, Hitler va ressembler à un enfant de cœur. Va ressembler vraiment à un nounours, à côté de ce qu'il fera. Ce sera vraiment, vraiment rien du tout. Donc, le verset 3 nous dit que la terre entière suivit la bête, et, ce qui est plus grave, au verset 4, ils se prosternèrent devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Donc, ce dirigeant mondial qui va diriger la terre, d'une poigne de fer, va recevoir sa puissance directement de Satan. Directement de Satan, et vous savez que Satan sait très bien qu'il a peu de temps, et que son temps est compté, et ça va être sa dernière chance, sa dernière bataille, où Satan va défier Dieu avec l'aide des hommes, et Satan va croire qu'il va encore gagner, qu'il a encore une possibilité de gagner. Mais nous savons que son temps est court et qu'il finira un jour dans les temps de feu et de soufre. Mais bon, et on n'en est pas encore là. Donc, nous voyons... Alors, à propos du mot antichrist, ce mot vient de la deuxième épître de Jean, au chapitre 1, au verset 7. C'est toujours l'apôtre Jean qui dit que dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confesse pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et voilà l'antichrist. Voilà, c'est ce nom que donne Jean, et un peu plus. Et autrement, dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 2, Jean nous dit comment reconnaître quelqu'un qui n'a pas Christ. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Toute personne qui ne confesse pas Jésus comme étant Dieu a cet esprit de l'Antichrist. Donc, je suis obligé de boire beaucoup parce que je suis sous antibiotiques. J'ai un petit problème à l'œil, c'est pour cette raison que je suis sous antibiotiques. Mais c'est pas grave, hein, je vous rassure. Donc, dans Apocalypse 13, au verset 8, il nous est dit que tous les habitants de la terre se prosterneront devant la bête, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est quoi ce livre de vie de l'agneau ? Ce livre de vie, c'est celui qui est dans le ciel. À plusieurs reprises, la Bible, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous parle de ce livre de vie où sont inscrits ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont nés de nouveau. Eh bien, ceux-là, ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, eux ne se prosterneront pas devant la bête. Par contre, tous les autres, je dis bien tous les autres, c'est-à-dire toute la terre va se prosterner devant cet homme. Bien, mais ça ne s'arrête pas là. Toujours au Apocalypse chapitre 13, Jean nous parle d'un second personnage qui va apparaître aussi dans les derniers temps, et ce second personnage sera l'adjoint du premier, ou plutôt son premier ministre, si vous voulez, d'une façon simpliste. de vous faire comprendre les choses, ce sera son bras droit. Un peu comme Goebbels était les bras droits d'Hitler. Donc, Apocalypse 13, verset 11, « Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. » Est-ce que vous comprenez l'image? La Bible nous dit qu'elle avait deux cornes semblables à un agneau. Ça vous fait penser à quoi? Voilà, ça nous fait penser à Jésus. Ce second personnage va faire comme s'il était Jésus. La douceur de Jésus, les gens vont dire, ah oui, mais c'est Jésus qui est venu aider cet homme et tout ça. Mais la Bible nous dit, elle parlait comme un dragon. C'est-à-dire que quand elle va commencer à parler, à exposer son programme et à dire ce qu'elle va faire, tout le monde verra que, en fait, ce n'est pas Jésus. Cet homme va tenir sa puissance aussi directement du diable. Et au verset 13, elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc cet homme va avoir une puissance diabolique, une puissance Dieu va laisser faire, puisque Dieu leur laisse une puissance d'égarement. Dieu donne à ces gens une puissance d'égarement. Donc cet homme va être capable de faire tomber la foudre sur la terre, faire descendre le feu du ciel. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui a fait ça. C'était qui? C'était Élie. Mais Élie, il a fait pour la bonne cause. C'était un témoignage. Élie, Dieu a montré en faisant ça qu'il honorait le sacrifice d'Élie, mais qu'il n'acceptait pas les sacrifices des faux prophètes de Baal, les 400 faux prophètes de Baal qui venaient tromper le peuple. Mais cette fois, ce n'est plus la même chose. Cet homme va faire ce genre de manifestation pour pouvoir attirer l'attention sur lui et les gens diront, oui, vraiment, il a une puissance, il a quelque chose, c'est certainement un prophète, c'est vraiment la personne qu'il faut adorer. Et cet homme va faire construire une statue et il va obliger tous les hommes de la terre à se prosterner devant cette statue. Et cette statue représentera la première bête, c'est-à-dire l'Antichrist. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un qui a fait une chose de ce genre. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait fait ériger une grande statue et il avait demandé à tous les sujets de son royaume de se prosterner devant cette statue et d'adorer cette statue. Et vous savez qu'il y a trois personnes qui ont refusé. C'était les trois jeunes Hébreux, les compagnons de Daniel, et qui ont été jetés dans le feu, mais qui n'ont pas brûlé. Voilà. Donc Dieu a honoré sa parole en protégeant ces trois jeunes Hébreux. Eh bien, dans la fin des temps, cet homme va ériger une grande statue et va obliger tous les hommes de la terre à se prosterner devant cette statue. Tous les hommes, mais évidemment, tous ceux qui sont nés de nouveau n'accepteront pas. Et c'est à ce moment-là que nous aurons une grande tribulation dont parle la parole de Dieu. Et tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre, dans le livre de vie de l'agneau. Donc, elle séduit les habitants de la terre par des signes qui lui furent donnés d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Donc, beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes vont mourir à ce moment-là parce qu'ils vont refuser de faire allégeance à l'Antichrist et de se prosterner devant la bête. Il va y avoir, et ça c'est la grande tribulation, il y aura beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes qui vont mourir, mais vous savez que actuellement, donc, il y a déjà la persécution sur la terre. Donc à plusieurs reprises, Marc nous a parlé de ces 175 000 personnes qui meurent à cause de Christ. Donc il y a déjà beaucoup, beaucoup de gens qui sont déjà dans la grande tribulation. Si vous allez dans certains pays, comme par exemple l'Érythrée, en Érythrée, les chrétiens sont systématiquement mis à mort. L'Érythrée, c'est un petit pays qui se trouve entre la Somalie et le... Aidez-moi. Et l'Éthiopie. Voilà. Et donc, là, les gens sont systématiquement, et en Irak, et en Afghanistan, au Pakistan, pour ne citer que ces pays-là, le fait d'être chrétien est souvent une condamnation à mort. Alors, un autre signe, le signe majeur du retour de Jésus-Christ, eh bien, ce signe, c'est Israël. Pourquoi Israël ? Le peuple juif a vécu à peu près 35 à 40 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Ce peuple juif a continué à vivre en Palestine, à vivre en Israël. Mais en l'an 70 de notre ère, des armées romaines sont venues et ont brûlé Jérusalem et le temple et ont dispersé les juifs. Une partie de la population a été massacrée, les trois quarts, et les survivants ont été dispersés pratiquement partout dans le monde entier. Et seulement, les prophéties disaient qu'un jour les juifs allaient revenir dans leur terre. Tous les grands prophètes de la Bible, et en particulier Ézéchiel, a prophétisé le retour des juifs après un très long temps d'exil. Et ce très long temps, ce n'était pas le temps de la captivité de 70 ans à Babylone. C'était un temps beaucoup plus long. Ce qui fait qu'en l'an 70, les Romains ont détruit Israël, ont dispersé les juifs, mais Dieu n'a jamais permis qu'Israël ne disparaisse. Parce qu'il avait fait cette promesse à Abraham et à ses descendants que les descendants d'Abraham seraient aussi nombreux que les grains de sable de la mer et les étoiles du ciel. Donc, il n'était pas question qu'Israël disparaisse. Ce qui fait, c'est la raison pour laquelle pendant 2000 ans, Israël a survécu au travers de toutes sortes de tempêtes. Il y a eu des pogroms, il y a eu l'inquisition espagnole qui les a dispersés, il y a eu les pogroms en Pologne, en Russie. Un peu partout à travers l'Europe, ils ont été pourchassés. Au moment des croisades, ils ont été massacrés. Mais à aucun moment, ils n'ont disparu. Le bouquet, si on peut, d'une façon triviale de parler, le bouquet, c'était ce qu'a fait Hitler. 6 millions de juifs gazés, tués, exterminés. Et pourtant, Israël n'a pas disparu. Tous les peuples de l'Antiquité qui vivaient du temps d'Israël, d'il y a 2000 ans, ne sont plus là. Même si on parle de la Grèce actuelle, même si on parle d'autres pays comme l'Égypte, ce ne sont pas ces gens-là qui vivaient il y a 2000 ans. Par contre, Israël a survécu. Et ça, c'est le miracle de Dieu. C'est ce miracle de Dieu. Et quand Nebuchadnezzar, je fais un bond en arrière dans le temps, pour pouvoir vous expliquer, quand Nebuchadnezzar est venu attaquer Jérusalem il y a 6 à 7 siècles avant la venue de Jésus-Christ, le temple a été brûlé et détruit. Et les Juifs ont été persécutés, massacrés. Mais les survivants sont revenus reconstruire le temple avec Esdras, du temps d'Esdras et du temps de Néhémie, du temps de Zorobabel. Ça a été la reconstruction du temple. Mais c'est ce temple que va trouver Jésus, ce temple qui va être modifié, embelli par le roi Hérode, c'est ce temple qu'a trouvé Jésus. Et c'est ce temple qui va être détruit par les Romains. Vous me suivez? Même si c'est un peu compliqué, essayez de suivre, parce que je vous promets d'un bout à l'autre de l'histoire. Pendant que les Juifs étaient dans la diaspora, pendant qu'ils étaient dans ce temps d'exil, ils ont toujours cru qu'ils allaient revenir en Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement la Bible dit. La Bible dit, si vous lisez la grande vision d'Ézéchiel, la vallée des ossements, Ézéchiel voit une grande vallée remplie de cadavres, remplie d'ossements, et le Dieu lui demande de prophétiser sur ces eaux. Et on voit que les eaux qui se rassemblent et qui deviennent une grande armée, et ensuite l'Esprit de Dieu vient sur ces hommes, eh bien, Dieu dit à Ézéchiel que c'est la nation d'Israël qui va revenir. Et beaucoup d'autres prophètes, on n'a pas le temps d'aller dans les détails, prophétisent le retour des Juifs dans leur terre après un très long exil. Et effectivement, en 1948, les Nations Unies vont de nouveau proclamer la nation juive comme État avec le président Ben Gurion, en 1948. Mais seulement, quand les Juifs ont retrouvé leur terre, ils ont aussi retrouvé d'énormes problèmes. Et le problème principal, c'était le problème du temple. Les Juifs ont toujours désiré reconstruire le temple et reprendre les sacrifices d'animaux, comme dans l'Ancien Testament. Ça a toujours été leur projet. Mais quand ils sont revenus, ils ne pouvaient pas le mettre en exécution, parce que sur le mont du temple, il y a deux mosquées, même trois mosquées. Mais les deux mosquées principales sont la mosquée d'Al-Aqsa et la mosquée d'Omar. Bon, tout le monde est très familier de ces mosquées, parce qu'on les voit souvent à la télévision. Quand on voit des photos ou des images d'Israël ou de Jérusalem, c'est la première chose qu'on voit, le dôme doré de ces mosquées. Ces mosquées ont été construites au 7e siècle de notre ère, et ces mosquées sont construites sur l'emplacement de l'ancien temple de Jérusalem. Et vous savez que cet emplacement du mont du temple, n'est pas anodin. Ce n'est pas par hasard que le temple avait été construit là. Il faut remonter très loin dans la Bible, au sacrifice d'Isaac, au moment où Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Isaac va être amené par son père Abraham sur une montagne. Cette montagne, c'est le mont Morija. Et c'est là où Dieu va arrêter la main d'Abraham et va l'empêcher de sacrifier Isaac. Et c'est cette montagne qui plus tard va devenir, du temps de David, l'aire d'Aravna. Aravna, c'était un paysan qui avait sur une colline de Jérusalem un champ. David, Dieu, sous l'impulsion de Dieu, David va racheter cette colline et va faire construire, et son fils Salomon va faire construire le temple. Eh bien, ce temple, ce mont Morija ou l'aire d'Aravna, c'est tout simplement l'esplanade des mosquées ou le mont du temple. Les Juifs disent le mont du temple, les musulmans disent l'esplanade des mosquées. C'est tout simplement cet endroit. Donc, les Juifs rêvent de reconstruire ce temple. Et la Bible dit qu'ils y parviendront, qu'ils vont le reconstruire un jour. Nous savons déjà, si nous suivons les actualités, que les Nations Unies essayent par tous les moyens de faire une espèce d'accord entre les Palestiniens et les Arabes pour faire un compromis. Ils cherchent des compromis pour éviter la guerre. Ils cherchent un compromis. Et aux Nations Unies, ils sont même en train de faire un compromis pour voir si on ne pourrait pas reconstruire un temple à côté des mosquées. C'est un compromis des Nations Unies. Donc, c'est pour vous dire l'importance de cette chose. Nous revenons à Matthieu 24. Matthieu chapitre 24, verset 15. Jésus nous donne un signe important dans ce verset de son retour. Un signe important pour savoir que son retour est proche. Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Que le lecteur fasse attention. Alors, c'est quoi cette abomination de la désolation dont parle Jésus ? De quoi s'agit-il ? Eh bien, pour en savoir plus, il faut remonter au prophète Daniel, chapitre 9, au verset 27, la fin du verset 27. Daniel parle d'un dirigeant mondial qui fera cesser le sacrifice de l'offrande. Le dévastateur ira à l'extrême des abominations jusqu'à ce que la ruine de ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Ça veut dire que cet homme dont parle Daniel va faire arrêter le sacrifice de l'offrande. Et pour Daniel, c'est l'abomination. Et Jésus reprend cette prophétie de Daniel et parle de l'abomination de la désolation. Donc, nous voyons que Jésus et Daniel parlent de la même chose, de la même personne. Il s'agit d'un personnage qui va faire arrêter les sacrifices du temple. Vous savez que dans le temple de Jérusalem, chaque jour, il y avait un sacrifice d'un agneau, le matin et le soir, et il y avait chaque jour aussi le sacrifice d'un bélier ou d'un taureau. C'était le sacrifice perpétuel, chaque jour. Eh bien, Jésus dit que ce dirigeant mondial va faire arrêter ça, va faire arrêter ce sacrifice. Bon, pour que ce dirigeant mondial fasse arrêter ce sacrifice, il faut qu'il y ait un temple. On ne peut pas arrêter un sacrifice s'il n'y a pas un temple. Et le seul endroit où on peut faire des sacrifices d'animaux pour un juif, c'est dans le temple de Jérusalem, et pas ailleurs. Donc, cet homme va faire arrêter les sacrifices. Cela signifie que, vraisemblablement, le temple sera reconstruit. On ne peut pas, pour l'instant, je ne peux pas vous donner des détails, je ne fais que lire ce que dit la parole de Dieu. Mais, si nous prenons la deuxième épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 3 et 4. Alors, l'apôtre Paul nous donne des instructions, des indications très, très intéressantes sur la façon dont ce dictateur mondial, cet antichrist, va faire ce temps, va agir. Alors, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut qu'auparavant, l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de perdition. L'apôtre Paul appelle l'antichrist l'homme impie, le fils de perdition. Ça, c'est l'un des noms qu'a cet homme. Il l'appelle aussi au verset 4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore et qui va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se passer lui-même pour Dieu. Donc cet antichrist va s'asseoir dans le temple que va reconstruire les juifs, il va se faire proclamer Dieu. Mais avant de faire ça, il va faire cesser les sacrifices de l'offrande. L'offrande du matin, l'offrande du soir. Pourquoi il va faire cesser ces sacrifices d'animaux ? Bon alors, certains commentateurs, un grand nombre de commentateurs pensent que c'est parce que les associations de protection des animaux vont se rebeller contre ces sacrifices d'animaux dans le temple. Comme par exemple la SPA, ou bon, je donne ce nom, mais je ne dis pas que c'est eux qui le feront, attention, je ne dis pas que ce sont eux. Mais il y a de puissantes organisations un peu partout, aux États-Unis comme en Europe, qui protègent les animaux, qui mettent même des affiches, même dans le métro, vous allez voir des affiches de protection des animaux. Et c'est, il y aura des lobbies de protection pour empêcher les sacrifices d'animaux. Et c'est ça que Daniel appelle l'abomination de la désolation. C'est l'abomination de faire arrêter. Et c'est à ce moment-là que l'Antichrist va s'installer dans le temple et il va se faire proclamer Dieu. Et comme il va faire des prodiges, des miracles extraordinaires, et comme son adjoint, ce faux prophète, va également faire descendre le feu du ciel, il va faire des choses extraordinaires, tout le monde va tomber dans le panneau. Et tout le monde va l'adorer, sauf nous. Il faut le crier fort, sauf nous. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? L'avènement, au verset 9, toujours dans Thessaloniciens, l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Imaginez, vous avez déjà vu des prestidigitateurs, des gens qui font des tours de passe-passe, des magnétiseurs, des gens qui à la télévision font toutes sortes de trucs et on est tous la bouche ouverte en train de se dire mais comment il fait pour faire disparaître les gens, en fait ça. Eh bien cet homme fera des centaines de fois plus que ça, beaucoup. Donc il va faire des prodiges et des signes mensongers. Mais tous ces faux miracles, tout ce qu'il va faire, il va obtenir cela du diable lui-même. Satan va donner sa puissance pour faire ces choses. Et après, il nous est dit que ça va se faire avec toutes les séductions de l'injustice sur ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Ça, c'est terrible comme phrase. Dieu va envoyer une puissance d'égarement sur les gens. De la même façon que Dieu a envoyé une puissance d'égarement sur le roi Akab, pour que le roi Akab parte, et pour les faux prophètes du roi Akab, persuade le roi Akab d'aller à la guerre avec le roi de Juda. Donc Dieu peut envoyer une puissance d'égarement. Il l'a fait. Et là, il le refera encore. Et donc les gens vont se laisser, parce que les gens, tous ceux qui n'ont pas voulu accepter Christ, tous ceux qui n'ont pas voulu reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, eh bien, ils vont adorer la bête. Ils vont forcément l'adorer. Et alors, donc, c'est là où on parle de ce que Christian... C'est Christian ah, comment? Oui, ce que Christian a dit tout à l'heure à propos de la persécution. Alors, dans Matthieu 24, au verset 9, « Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. » Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Dans toutes les nations, il va y avoir une persécution généralisée contre les enfants de Dieu. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. La chose la plus terrible et la pire, ce sera que des enfants de Dieu eux-mêmes rétrogradent qui vont se trahir. On a vu ça malheureusement du temps du communisme, on a vu ça en Russie, on a vu ça dans les pays de l'Est, où certaines personnes ont trahi leurs frères, on a vu ça aussi en Chine, au Vietnam, dans les pays communistes, où les chrétiens, bon, faibles, ont trahi leurs frères. Malheureusement, c'est des choses qui arriveront aussi, quoi. Et donc, Matthieu 24, 21 nous parle donc de cette grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus de Dieu, ils seront sauvés. Vous rendez compte? Les persécutions, les troubles, les révolutions, les attentats terroristes, Et tout le Bataclan, tout ce qui va... Ben, oui, excusez-moi pour le mauvais jeu de mots. Toutes ces choses, eh bien, vont... Ça va être vraiment des temps difficiles, absolument difficiles. Donc l'Apocalypse 13, 7 nous avertit solennellement en parlant de la bête, et lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est qui les saints? Ouais. C'est nous, c'est les chrétiens. C'est les chrétiens. La bête va faire la guerre aux saints. Et il lui faut donner pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc vous voyez que ce sera quelque chose de mondial, absolument mondial. Et la pire des choses que fera la bête et le faux prophète, c'est l'institution d'un nouveau mode de paiement. Nous avons la carte de crédit, on a une carte bleue, on s'en sert, on a un numéro sur cette carte. Ça nous permet d'aller, moi-même j'ai été plusieurs fois à l'étranger avec ma carte de crédit française, je peux tirer dans des distributeurs au Sénégal, au Cameroun, ça marche. Mais Apocalypse 13, verset 16, 18, nous dit, cette bête, c'est-à-dire l'adjoint de la première bête, va faire que tous, petits et grands, riches et pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur le front. Il va y avoir une marque. On va tous avoir, enfin tous, ceux qui vont accepter ce système, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Donc on va tous, enfin tous ceux qui vont accepter ce système, vont avoir sur la main ou sur le front un signe leur permettant d'acheter ou de vendre. Et mais pour avoir cette permission, ce pouvoir d'acheter ou de vendre, il faudra faire allégeance à l'Antichrist. C'est-à-dire qu'il faudra accepter d'adorer l'Antichrist, et là, on aura cette marque. Et si vous n'acceptez pas d'adorer l'Antichrist et de faire ce qu'il dit, vous n'aurez pas cette marque. Ça veut dire que vous allez mourir de faim. Non, mais rassurez-vous, le Seigneur a des bons plans pour nous. Je vous le dis parce que je vois chez certains une certaine crainte dans les yeux. Non, le Seigneur a des bons plans pour nous. Moi-même, j'ai vécu au nord Cameroun, en terre musulmane, et également au Sénégal. Et à certains moments, c'était un peu chaud. Je peux vous dire que le Seigneur, il est fidèle. Il est fidèle. Alors, donc, je continue. Personne... D'accord. Donc, je vais assez vite maintenant, parce qu'il me reste 5 minutes. Donc, de quelle façon va se faire l'enlèvement de l'Église maintenant? Eh bien, Jésus nous dit que, en Matthieu 24, verset 27, en effet, comme l'éclair part de l'Orient et puis jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que la venue de Jésus-Christ se fera dans un éclair. Et en un clin d'œil même, nous dit l'apôtre Paul, en un clin d'œil, Jésus reviendra sur les nuées du ciel et il reprendra son Église. Il reprendra ses... Donc, comment va se faire cet enlèvement? Eh bien, Jésus nous dit dans Matthieu 24 que deux femmes qui vont travailler en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans un champ en train de travailler, l'un sera pris, l'autre laissé. Luc 21 nous dit que deux personnes qui seront dans un même lit, ça peut être un mari et une femme, un mari qui ne croit pas, qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, et une femme qui croit, eh bien, l'un sera pris, l'autre laissé. Donc, ce sera quelque chose de mondial, et ça va venir à un moment où on ne s'y attend pas. Et Jésus nous dit que ce sera comme du temps de Lot. Au moment où Lot a quitté Sodome et Gomorre, personne ne savait que Dieu allait brûler Sodome et Gomorre. Et tous les habitants ont péri. Et ce sera aussi comme du temps du déluge. Au moment où Noé a construit l'arche, aucune des personnes ne savait. Noé a bien prêché à ses contemporains, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, mais personne ne croyait que Dieu allait détruire la terre. Et pourtant, Noé et sa famille a été sauvés dans l'arche, et tout le reste de la terre a été anéanti, ils se sont tous noyés. Donc, ce sera de la même façon. Actuellement, peu de gens croient que le retour du Christ, de Jésus-Christ, est proche et qu'il vient, et beaucoup seront étonnés par la rapidité par laquelle ça va se faire. Donc l'apôtre Paul nous dit également dans la première épître aux Corinthiens et dans la première épître aux Thessaloniciens, j'abrège assez vite, que nous ne mourrons pas tous, mais que tous nous serons changés en un clin d'œil à la dernière trompette, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous serons changés, et nous partirons tous à la rencontre de Jésus dans les airs. Donc c'est quelque chose qui doit arriver. Et pour nous, c'est une consolation de savoir que Christ viendra et il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous laisser comme ça livrer à toutes ces choses horribles. Il y aura des gens qui vont mourir, il va y avoir de la persécution, mais Dieu va enlever son Église. Donc il faut qu'on se prépare. Et il faut qu'on se prépare, il ne faut pas qu'on dise comme certains catholiques avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit « Oh oui, ça va se faire dans 1000 ans. Oh, on a le temps, dans 2000 ans, ça va se faire. » Non, 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 nous avons les signes. Donc Jésus nous a dit que nous ne savons ni le jour, ni l'heure, personne ne le connaît, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Mais seulement nous tenons sur la brèche et nous... Et Jésus nous dit donc de veiller et de prier en tout temps, afin que nous ayons la force d'échapper à ce qui doit arriver. Donc, cette dernière chose que nous dit l'Épître aux Thessaloniciens, ce dernier verset que je partage avec vous, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 6 et verset 9, « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons pas. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu ne vous a pas destinés à la colère. Dieu ne vous a pas appelés pour aller en enfer. Il vous aime. Il vous a appelés. Dieu vous demande d'être fidèle, de veiller, de marcher avec lui, de ne pas faire de compromis avec ce monde, et de marcher avec lui, c'est ce qu'il vous demande. Et une couronne nous attend. Donc, relevons la tête, car la venue de notre Seigneur est proche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, parce que malgré ces temps difficiles par lesquels nous passons, avec ces attentats, ces crimes et tout ce qui se passe, non seulement en France, mais en Allemagne et dans d'autres pays, et dans le Proche-Orient, nous relevons la tête, Seigneur, parce que nous savons que tu contrôles ce monde et que nous n'avons rien à craindre, parce que tu as dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Nous nous appuyons sur cette promesse, Seigneur, et nous relevons la tête sans crainte. Et merci Seigneur pour ta protection. Béni sois-tu. Gloire à ton nom Jésus. Amen.